mettez le slow. Transistor.
Édition spéciale, Transistor, aux journées de l'écho.
Bonjour Lucien Carpic.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir au micro de Transistor pour répondre à quelques-unes de nos petites questions. Alors Lucien Carpic, vous êtes sociologue, professeur à l'École des Mines de Paris. Vous avez participé aux Journées de l'économie à travers une conférence dont le titre était « Ces marchés où le prix ne dit pas tout ». Et vous avez beaucoup travaillé sur les avocats, ce qui vous a conduit à développer l'idée de ce que vous appelez l'économie des singularités dans votre livre éponyme paru en 2007, livre qui a fait date et qui était au cœur de la discussion tout à l'heure, Salle Molière. Donc avant de vous poser quelques questions, je me permets d'essayer de rappeler très brièvement ce que vous appelez par l'expression « économie des singularités » afin que les auditeurs qui ne connaissent pas forcément l'économie s'y retrouvent. Alors, il s'agit en fait de marchés dans lesquels l'incertitude sur la qualité est centrale. Alors, dans le cas d'un service, parce que l'enjeu peut être important, c'est-à-dire de trouver un bon avocat ou un bon médecin devant une situation importante, bon médecin par rapport à d'autres, soit lorsqu'il s'agit d'une marchandise, lorsqu'elle est étroitement associée à une culture, enfin à la culture et à l'affirmation du statut social, c'est-à-dire trouver un bon vin ou une bonne interprétation d'une œuvre musicale ou d'un roman. Donc, par leur incertitude et leur caractère symbolique, ces singularités ne peuvent se lire uniquement par le prix, et la concurrence se fait d'ailleurs sur leur qualité et non plus sur le prix. C'est l'exemple que vous développez lors de la conférence du film, où à prix à peu près égaux, les consommateurs vont voir plutôt tel film qu'un autre. Donc le prix n'intervient plus vraiment dans le choix. Donc vous vous écartez en fait de la théorie néoclassique où le signal qui détermine le comportement du consommateur est le prix issu de la confrontation de l'ordre et de la demande. Alors j'espère que je n'ai pas trop déformé vos idées. Est-ce que vous voulez réagir ou préciser ce que j'aurais peut-être mal compris ou peu développé ?
Bon, il y a un seul point sur lequel je pourrais peut-être préciser quelque chose. C'est lorsque vous avez indiqué que le choix des produits singuliers obéissait à la logique du prestige social. Or, c'est un des critères possibles, mais pas nécessaire. Je veux dire que si nous souhaitons acheter le bon roman, c'est pas nécessairement parce que on souhaite imiter, par exemple, des classes dites supérieures, mais c'est parce que on recherche véritablement le roman, parce que le nombre de romans est extraordinairement élevé, parce que on n'a pas la possibilité de lire, par exemple, leur résumé ou leur présentation. Donc, il faut des éléments intermédiaires qui interviennent pour orienter notre connaissance et finalement notre choix. C'est ce que j'appelle, on y reviendra peut-être, les dispositifs de jugement. Et donc, là, ensuite, il y a un certain nombre de possibilités qui nous sont proposées, soit par des amis que nous avons rencontrés qui nous disent « il faut acheter ça », soit par les prix, par exemple, le prix Goncourt, on sait, c'est 300 000 ou 400 000 exemplaires, soit par tout autre, par les critiques littéraires, etc. Donc, ça n'est pas... En effet, par exemple, pour le luxe, la logique dont vous avez parlé, cette logique sociale de la distinction peut jouer, mais elle n'est pas indispensable. L'univers des singularités a une valeur par lui-même, si vous voulez, en ce sens que les gens cherchent en effet le bon film ou le bon médecin.
D'accord, et justement, vous évoquiez les dispositifs de jugement. Ça peut être donc des appellations, des labels, des marques, des... Tout ce qui peut éclairer des consommateurs vers un produit ou un service. Pour autant, tous ces dispositifs, tous ces réseaux, labels, etc., peuvent-ils vraiment lever complètement l'opacité qu'il y a due à l'incertitude sur la qualité ?
Écoutez, d'une certaine façon... On peut dire que la multiplication des dispositifs de jugement. Et donc, il y a ce que vous avez indiqué, les marques, les guides, les palmarès, les hits, etc., nous assaillent d'un surplus, d'un trop-plein d'informations. On passe de l'opacité virtuelle, lorsque le marché n'est pas équipé du tout, c'est une espèce de représentation théorique de ce que serait un marché des singularités sans équipement pour donner, pour produire de la connaissance. Et dans ce cas-là, c'est le chaos, d'une certaine façon. On n'a aucun critère, même si on n'a aucun critère pour distinguer ce qui est bon, pas bon, ce qui est grand, ce qui n'est pas, etc. Désormais, on peut dire que sur ces marchés, il y a au contraire une telle multiplication de tous les dispositifs qui sont concurrents entre eux, qui chacun présente une connaissance orientée par leurs propres critères pour vous attirer. Parce que le propre de ces marchés comme des autres, c'est de vous capturer et de vous capturer à distance. Donc, tous ces dispositifs font disparaître l'opacité au sens où ils vous donnent de l'information. Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce qu'elle est authentique ? Est-ce qu'elle est bien ajustée ? C'est toute autre question et qui ne serait pas facile, il ne serait pas facile d'apporter une solution. Mais on ne peut pas dire que, au contraire, je dirais que l'homme moderne, pour ce genre de bien, est tiraillé par une pluralité contradictoire de sollicitations, si vous voulez, plutôt une pluralité de sollicitations contradictoires. Ma réponse est un peu celle-ci, c'est que oui, l'opacité, sauf cas extrême, parce qu'il y a toujours, par exemple, il y a des tas de romans, il y a des tas d'interprétations musicales qui sont oubliées. Donc là, l'opacité, elle existe. On a beaucoup cru qu'avec Internet, ce qui était oublié réapparaîtrait. Ça a été l'objet de thèses, en particulier aux États-Unis. En fait, ce n'est pas vrai. Donc, ce qui est oublié est oublié, sauf si quelqu'un, c'est-à-dire une médiation, un médiateur, un acteur qui intervient pour dire, voilà, ça vaut le coup, même si ça a 50 ans ou 30 ans, c'est oublié, eh bien, ça vaut le coup d'y retourner, de l'entendre, de le lire.
D'accord. Donc à l'exemple de cette économie des singularités, comme vous dites, donc ils mettent à mal quand même un peu, comme on l'a dit, la théorie néoclassique où le signal qui détermine le comportement du consommateur, c'est le prix, issu de la confrontation de l'offre et de la demande, comme on le disait. Est-ce que cela nous amène à repenser totalement notre manière de concevoir le marché et de consommer ?
Cela amène en tout cas à revoir la théorie, économique comme étant une théorie générale ou universelle. Ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Ça veut dire qu'elle est partiellement inadéquate pour une catégorie de produits donnés, que je nomme singularité. Pour le reste, d'abord, je ne me prononce pas. Mon problème était plutôt de construire un système d'analyse pour les singularités, et d'autre part, et donc d'introduire un type de différence qui n'existait pas auparavant, parce que, en allant rapidement, les économistes utilisent grosso modo deux types de conceptualisation, pas beaucoup plus. Il y a d'une part un mécanisme de différenciation, alors donc ça c'est. Et d'autre part, il y a la distinction entre les biens d'expérience, les biens de confiance, dans lesquels il y a une certaine incertitude par rapport aux autres biens. Et c'est tout. Donc ce sont les outils qu'ils ont pour identifier les produits et les services. Ce qui n'est pas gênant pour eux, parce qu'en définitive, le fonctionnement du marché ne repose pas tellement sur les caractéristiques des produits. Par contre, dans l'économie des singularités, c'est bien les caractéristiques particulières des produits qui déterminent un mode de fonctionnement du marché pour assurer la reproduction de ces singularités.
D'accord. Et justement, vous évoquiez dans la conférence deux processus, celui de la singularisation et de la désingularisation. Donc la singularisation, on voit à peu près de quoi il retourne. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, on crée par un système de labels et de concurrence entre labels ou informations quant à un produit, une demande où on essaye de l'orienter. À l'inverse, comment est-ce qu'une singularité se désingularise ?
D'accord. Alors, si vous voulez, pour la singularisation, il y a un très bel exemple, c'est la construction du marché des grands vins, qui est une histoire récente. On croit que ça remonte à très loin. Alors, bien entendu, on boit du vin, etc., depuis très longtemps. Mais la construction collective, à travers les classements, les journaux, les guides et tout ça, c'est un phénomène relativement récent qui date, grosso modo, de 3 ou 4 décennies. Et il a fallu un énorme travail collectif et de persuasion collective et ensuite de l'apprentissage collectif pour qu'apparaissent les amateurs, pour qu'apparaissent des noms, pour qu'apparaissent les AOC, puis ensuite les guides, et pour qu'apparaissent des noms comme, je ne sais pas, Pétrus, Brion, etc., donc des singularités. Donc vous voyez, y a, les singularités ne sont pas là en tant que... Sauf, bon... même la peinture ou la musique, qui seraient des exemples tout à fait frappants de singularité, eux-mêmes doivent être construits par des gens qui disent « oui, ça c'est vraiment de l'excellente peinture » et on sait qu'il y a des peintres maudits qu'on redécouvre longtemps après et qu'il y a des fausses valeurs qui disparaissent. Donc il y a toujours une espèce d'intermédiaire entre les amateurs qui portent des jugements, qui achètent, et les producteurs, en ce cas-là, les artistes. Et donc, pour le vin, ça a été un peu le même processus. Alors, la question maintenant de la désingularisation est une grande question qui va bien au-delà d'un problème économique, puisque, en fait, elle a été posée... après la Seconde Guerre mondiale et même avant, à travers tout le thème de la disparition de la haute culture au profit de la culture de masse. C'est-à-dire comment les produits de la haute culture, à partir du moment où ils étaient reproduits et sans cesse reproduits pour le grand nombre, aboutissaient finalement à faire disparaître d'abord tout ce qui était la haute culture au profit d'autres formes plus simples, etc. Alors, et donc là-dessus, il y a eu des thèses générales sur la transformation culturelle des sociétés, tout simplement. Alors, mon propos est plus spécifique et plus limité. Ce que j'essaie de montrer, puisqu'il y a plusieurs types de marchés des singularités, j'essaie de montrer que certains types de marchés de singularités ne produisent pas ce genre de phénomène. On peut prendre l'exemple relativement simple pour la France des AOC qui visent à stabiliser, au contraire, contre le temps, contre l'histoire, les caractéristiques des produits, puisque c'est la condition même de leur vente. Donc, un fromage AOC, il restera tel quel, parce que c'est la condition même de sa vente. Alors, la désingularisation, c'est comment des objets qui sont incomparables, quelque part, en même temps, progressivement, perdent ce genre de propriété, deviennent relativement interchangeables, c'est-à-dire qu'on achète celui-là ou un autre sans se poser trop de questions, parce qu'on considère qu'il y a une équivalence, et même à la limite, on achète l'un ou l'autre en regardant uniquement le prix. Alors, ça peut venir... alors, je ne sais pas... Vous avez des processus de désingularisation qui portent éventuellement sur une catégorie entière de biens. Par exemple, les chansons de variété que j'ai essayé d'étudier et qui montrent qu'en France comme aux États-Unis, il y a eu un certain nombre de travaux qui montraient sous quelles conditions les chansons perdaient de leur qualité, perdaient de leur originalité, tout simplement, que, en définitive, il y avait il n'y avait plus les noms, il n'y avait plus ni des noms d'auteurs, ils n'étaient plus tellement importants, ni des noms de chanteurs, c'est-à-dire au sens où ils étaient justement des représentants de la singularité, et que les chansons, au fond, si elles étaient classées, c'est que ça n'avait pas tellement d'importance, sauf être le premier, c'était vendu, mais on pouvait une semaine être le premier, la semaine d'après être le dixième, disparaître du classement, remonter, etc. Donc cette disparité des classements montrait qu'au fond, aucun public véritablement n'y tenait. Et cette espèce d'interchangeabilité montre aussi qu'il y a un phénomène de désingularisation, c'est-à-dire que la chanson, comme d'autres œuvres symboliques, perd de son originalité, n'est même plus reconnue comme quelque chose de particulier, et c'est-à-dire que l'on passe facilement d'une chanson à l'autre. Mais il y a un mécanisme encore plus simple de désingularisation qui vaut aussi pour les biens singuliers. Autrement dit, si vous pouvez acheter un bien singulier, je ne sais pas, par exemple une interprétation d'une musique... une interprétation de, par exemple, de piano de Chopin, où vous avez 10 ou 15 interprétations concurrentes. Vous pouvez être un connaisseur au sens où vous essayez d'essayer d'attraper, à travers divers moyens d'information, la version qui est la meilleure ou une des bonnes versions. Ensuite, vous pouvez pour le même choix, vous pouvez regarder simplement les pochettes ou la présentation, est-ce que ça se situe en tête de gondole ou pas, etc. Et en bout de course, vous pouvez uniquement choisir entre les diverses interprétations, uniquement en fonction du prix. Donc, ça a été un des grands mécanismes, par exemple, qui a favorisé la désingularisation du disque de variété, c'est que ça a été repris par les grandes surfaces qui l'ont vendu à 1 dollar, par exemple. Ou en France, c'était, je ne sais plus très bien, mais c'était toujours une somme extraordinairement minime. Et les disques, les piles de disques étaient mises à côté des piles de lessive. Donc, vous voyez, alors c'est à travers des mécanismes relativement simples dans lesquels qui créent des automatismes de ce genre que finalement, il y a une perte de la valeur symbolique des biens qui se trouve du coup, alors qu'ils sont toujours restés les mêmes. Mais le système d'interprétation, lui, change à travers ce genre de positionnement, ce qui fait que ça a beaucoup participé. À partir du moment où les CD et variétés sont devenus un mécanisme d'appel pour les ventes d'autres biens, à ce moment-là, la désingularisation a joué à fond.
D'accord. Et justement, dans ce contexte actuel de crise économique, financière en Europe notamment, est-ce que ce marché des singularités, qui repose beaucoup sur la confiance, comme vous l'avez rappelé, est-ce qu'il risque de se transformer ou peut-être de péricliter au profit de produits standardisés, désingularisés ?
Alors la réponse est compliquée au sens que on ne connaît pas les transformations sociales qui vont accompagner les crises économiques qui risquent de se succéder. Autrement dit, tant qu'il y aura un public qui attache de la valeur aux singularités et qui a les moyens de payer un peu plus cher ou de ne pas faire attention au prix, à l'intérieur de certaines contraintes, bien entendu, les singularités vont se développer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. L'industrie du luxe est une des industries dont la croissance n'a pas été ralentie. Elle n'est pas en crise. Au contraire, elle va très bien. Et il en va ainsi de beaucoup d'industries qui relèvent des singularités. Les médecins, ça va bien aussi. Donc, vous voyez, il n'y a pas de relation directe entre les deux. Alors, ça dit, il y a une relation. Si vous prenez, par exemple, le cas des médecins, il est clair que si la crise sociale, économique et sociale s'approfondit, les taux de remboursement vont diminuer. Vous voyez, il y a tout un mécanisme qui fait qu'en bout de course, il risque d'y avoir une rationalisation par le temps du travail du médecin et donc une perte de leur singularité.
Et pour finir, peut-être pour se faire une idée un peu générale de ce marché des singularités qui est à la fois vaste et très hétérogène et très complexe à aborder, quelle part dans l'économie représenterait ce marché?
Alors,
c'est peut-être pas facile à
non,
à quantifier,
c'est pas facile.
Mais...
Je vous donnerai un chiffre, mais enfin une proportion, mais que je ne garantis absolument pas parce que je l'ai pas calculé moi-même. Je vois, un de mes amis qui a regardé les choses m'a dit à peu près un tiers, ce qui me paraît énorme, probablement de trop. Mais je n'ai aucun élément pour dire c'est plus ou moins. Donc je ne peux absolument pas vous le dire parce que vous voyez, il faudrait ajouter en effet ce que vous disiez. À la fois, c'est très diversifié et en même temps, bah, c'est l'essai que représente l'économie de singularité, c'est de faire les nécessaires simplifications, donc généralisations ou abstractions, qui permettent de rendre compte de façon adéquate, pertinente, du fonctionnement de marchés qui ne fonctionnent pas comme les autres, puisque là, le prix, comme disait le titre de la conférence, le prix est là, il est toujours présent, mais c'est moins un critère de choix qu'une contrainte à l'intérieur duquel, entre les prix que l'on est disposé à accepter, à l'intérieur duquel se font ce qui compte vraiment, c'est-à-dire les choix entre des qualités différentes.
D'accord. Eh bien, c'est sur cette petite incertitude que nous allons nous quitter. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview.
Merci beaucoup. Vous aussi.
Édition spéciale Transistor aux journées de l'écho.